Seigneur, nous avons mis sur notre pub pourquoi cela m'arrive. Et on se pose tous ces questions. Et c'est dans ta parole que nous voulons chercher des réponses. Seigneur, rends-nous attentifs pour que nous puissions saisir ce que dit ta parole face à la souffrance. Et Seigneur, nous voulons aussi te remettre Jonathan, qui puisse avec aisance nous faire part de tout ce qu'il a découvert dans ce livre de Job, que nous puissions, Seigneur, connaître cette bénédiction d'approfondir notre foi par ta parole. Nous te remettons ce moment maintenant au nom de Jésus. Amen.
Le micro, tu parles ? Il tombe un peu, c'est normal. Tu vois, il tombe. Merci Karen, ça marche. Tout le monde m'entend ? En fait, je suis très heureux d'être là, je suis très encouragé de vous voir nombreux ce matin. Je m'associe à l'accueil qui vous a été fait hier par Marion, notamment par toute l'équipe. Pour ceux que je n'aurais pas encore eu l'occasion de saluer, parce qu'on est très nombreux et je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout le monde. Depuis qu'on est là, je m'appelle Jonathan, je suis mari d'une seule femme. Jusque-là, tout va bien. Père d'une seule fille, 9 mois, pas encore toutes ses dents, une demi-dent qui a commencé à pousser en juillet, qui commence à marcher à 4 pattes et à faire beaucoup de bêtises. J'ai besoin de beaucoup de patience. Et je suis secrétaire itinérant régional dans la région Rhône-Alpes et je suis basé avec mon épouse à Lyon, cette belle ville de Lyon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire deux remarques que je qualifierais de préliminaires. La première remarque, c'est que la meilleure façon de manger un éléphant, c'est de le couper en tranches. La meilleure façon de manger un éléphant, c'est de le couper en tranches. Le livre de Job est un peu comme un éléphant. C'est un gros livre. Si vous l'avez lu, vous savez ce que c'est. C'est un gros morceau. 42 chapitres que nous allons manger, dévorer, survoler en 6 étapes, en 6 tranches cette semaine. Ce matin, nous allons faire une introduction de livre qui va non seulement nous permettre de faire un survol de ce livre, mais qui va aussi nous permettre de lire des passages que nous n'aurons peut-être pas le temps de lire cette semaine, parce que c'est un livre assez long. Demain, nous ferons un survol du prologue, les 2 premiers chapitres du livre, les chapitres 1 et 2, après-demain, nous ferons un survol des chapitres 4 à 27, un projet audacieux. Le lendemain, nous ferons un survol du chapitre 28, un somptueux poème sur la sagesse. Et je serais vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez de ce chapitre 28 du livre de Job, qui vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Le lendemain, nous ferons un survol d'un personnage très énigmatique. Et là encore, je serais vraiment très curieux de savoir ce que vous en pensez. Éliou. Des versets des chapitres 32 à 37. Et nous consacrerons notre dernier temps ensemble à la réponse de Dieu, des chapitres 38 à 42. D'accord, donc c'est la première remarque que j'aimerais faire, c'est que la meilleure façon de manger un éléphant, c'est de le couper en tranches. Super. La deuxième remarque que j'aimerais faire, très pratique, c'est que pour chaque message, il y a en réalité un plan dans vos livrets que Daniel et Jérémy ont préparé pour vous, et j'aimerais vraiment les remercier parce qu'ils ont fait un boulot vraiment super. Les plans de toutes les interventions sont dans le livret qu'on a dû vous remettre. Donc tout ce que vous avez voulu savoir sur Job, sans jamais oser le demander, se trouve dans vos livrets. Et le plan de l'intervention de ce matin se trouve à la page 13. Et vous allez remarquer qu'à la fin de chaque intervention, il y a une case réservée à l'application. Application pour moi. cette semaine, veillez à ce qu'il ne vous manque pas une case. Je vous encourage vraiment à remplir cette case pour retenir les applications qui seront tirées du texte et qui s'appliquent dans votre vie. J'insiste, les applications qui sont tirées du texte et qui peuvent s'appliquer très concrètement à votre vie. D'accord ? C'est clair ? Le train s'était arrêté. Nous vîmes les flammes s'élevant du haute cheminée dans le ciel noir. Nos regards se fixaient sur les flammes. Une odeur flottait dans l'air. Les portes de notre wagon à bétail se sont ouvertes. Tout le monde sort, laissez tout à l'intérieur, vite ! Nous avons sauté sur les quais devant les flammes. Dans l'air, l'odeur de la chair qui brûle. Il devait être minuit. Nous étions arrivés à Birkenau. Les officiers SS donnaient l'ordre, formaient des rangs de 5. Nous nous sommes mis à marcher jusqu'à une intersection. Non loin de nous, des flammes immenses s'élevaient des fosses. Quelque chose y brûlait. Un camion s'approcha pour y déposer sa charge. Des enfants, des bébés. Oui, j'ai vu de mes propres yeux, des enfants étaient jetés dans les flammes. Un peu plus loin, il y avait une autre fosse, plus large pour les adultes. Je me suis pincé. Étais-je vivant ? Étais-je éveillé ? Comment était-il possible que des hommes, des femmes et des enfants étaient brûlés et que personne ne disait rien ? Cela ne devait pas être vrai, un cauchemar peut-être. Bientôt j'allais me réveiller, mon cœur battant la chamade, la sueur ruisselant sur mon front, me retrouver dans l'une des pièces de mon enfance avec mes livres. Jamais je n'oublierai cette nuit, la première nuit de camp, qui a fait de ma vie une nuit longue et 7 fois verrouillée. Jamais je n'oublierai cette fumée. Jamais je n'oublierai les petits visages des enfants dont j'ai vu les corps se transformer en volutes sous un azur muet. Jamais je n'oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi. Jamais je n'oublierai ce silence nocturne qui m'a privé pour l'éternité du désir de vivre. Jamais je n'oublierai ces instants qui assassinèrent mon Dieu et mon âme et mes rêves qui prirent le visage du désert. Jamais je n'oublierai cela, même si j'étais condamné à vivre aussi longtemps que Dieu lui-même. Jamais. Ce témoignage, ce n'est pas le mien, c'est celui de quelqu'un que vous connaissez peut-être, Elie Wiesel. Elie Wiesel est un écrivain américain d'origine roumaine qui, à l'âge de 15 ans, en 1943, a été déporté avec toute sa famille dans les camps d'Auschwitz-Birkenau puis de Buchenwald. Une captivité poignante qu'il raconte dans son autobiographie intitulée « La nuit », dont est extrait le témoignage que nous venons de lire. Et si tout ça vous arrivait à vous, comment réagiriez-vous ? Comment avez-vous réagi la dernière fois que vous avez été confronté à la souffrance et à la souffrance injuste, votre propre souffrance ou la souffrance des autres ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ? Comment ça s'est passé entre vous et Dieu ? Est-ce que vous avez douté de son amour ? De sa justice, de son existence? Laissez-moi vous poser une autre question. Est-ce que vous avez peur que la souffrance consume votre foi pour toujours? Est-ce que vous avez peur d'abandonner votre foi en Dieu si un jour, dans sa souveraineté, il permet qu'elle soit éprouvée? C'est une question difficile, n'est-ce pas? Non? Vous ne trouvez pas? C'est une question difficile posée par un livre difficile. Le livre de Job. Et j'aimerais simplement dire que le but de cette introduction n'est pas du tout de faire du livre de Job un livre incompréhensible, inaccessible, et de vous décourager de le lire. Bien au contraire. Bien au contraire. Le but de cette intro est de vous encourager à le lire ou à le relire, malgré ses difficultés. Parce que c'est un livre utile, précieux, dont nous avons besoin. Et c'est simplement ce que j'aimerais dire ce matin. 2 choses. Que vous avez dans vos livrets. Premièrement, nous allons voir que le livre de Job est un livre difficile. Dans un second temps, nous allons voir que c'est un livre utile. Premièrement donc, un livre difficile. Je ne sais pas si vous avez lu Les Frères Karamazov. J'ai eu l'occasion de parcourir ce livre l'année dernière, Mais dans ce roman de Dostoïevski, un personnage, Grigori, aime beaucoup le livre de Job. Il le lit religieusement, chaque année. Le seul problème, et si vous avez lu le livre, vous savez quel est ce problème, c'est qu'il n'y comprend strictement rien. Pourquoi ? Parce que le livre de Job est un livre difficile. Il faut regarder la réalité en face. Il y a parfois dans la Bible des livres qui sont pas faciles, qui sont difficiles. Et je crois que le livre de Job est difficile pour trois raisons. Premièrement, c'est un livre poétique. Et si vous avez lu le livre de Job, vous avez peut-être remarqué ce caractère poétique. 95%, rendez-vous compte, 95% du livre de Job est écrit sous forme poétique. Et alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, je vous répondrai que la poésie est un genre littéraire particulier. Si vous avez fait des études de français, si vous avez déjà lu des poèmes, étudier des poèmes, c'est pas facile. Vous ne lisez pas un poème comme vous lisez un article dans L'Équipe. C'est pas vrai. La poésie touche nos cœurs, elle touche nos émotions. Son langage est parfois évasif, emporté, exalté. Et celui de Job atteint parfois, pour reprendre l'expression de Jules Marcel Nicole, qui a écrit un très bon commentaire sur le livre de Job, le langage de Job atteint parfois les limites du sublime, ce qui, comme vous le comprenez, ne facilite ni sa compréhension, ni sa traduction. Première raison pour laquelle Job est un livre difficile, c'est un livre poétique. Tout simplement. Deuxième raison pour laquelle Job est un livre difficile, c'est un livre difficile à cerner. Où la scène se passe-t-elle ? Première question. Si vous lisez le premier verset du premier chapitre, Job, chapitre 1, verset 1, que lisez-vous ? Il y avait dans le pays d'Utz ou d'Utz un homme qui s'appelait Job. Problème, où est Utz ? Où est Utz ? Aucun élément probant ne permet de le déterminer avec précision. C'est pas facile. Deuxième question. Quand et par qui le livre de Job a-t-il été rédigé? Là encore, aucun élément probant ne nous permet réellement de le déterminer avec précision. En revanche, ce que nous savons, c'est la période historique à laquelle Job a vécu. Sans doute l'époque des patriarches, l'époque patriarcale au début du deuxième millénaire avant Jésus, autrement dit en l'an 2000, mais avant Jésus. Et là, plusieurs indices nous mettent sur la voie, je vous en cite quelques-uns. Si vous avez lu Job, vous avez peut-être remarqué qu'aucune référence, absolument aucune référence n'est faite à quoi ? À la loi. À la loi, au peuple d'Israël. Ce qui pourrait impliquer, il faut rester prudent, mais ce qui pourrait impliquer que Job ait en réalité vécu avant la naissance du peuple d'Israël, remontant probablement au 15e siècle. Avant Jésus. Deuxième indice, nous mettons sur la voie de l'ère patriarcale, c'est le fait que Job soit son propre prêtre. Ça, on va le voir demain. Son propre prêtre ainsi que celui de sa famille. Ce qui, encore une fois, rappelle étrangement l'organisation du clan familial à l'époque des patriarches. Troisième élément de réponse, nous mettant sur la voie de l'ère patriarcale, c'est la longévité de Job qui correspond encore étrangement à celle des patriarches. Est-ce que vous vous rappelez combien d'années Job a vécu ? 140. Excellent. Job, chapitre 42, verset 16. C'est une longévité qui rappelle étrangement la longévité des patriarches, n'est-ce pas ? Et le dernier élément qui peut nous mettre sur cette voie, c'est la kesita. Au chapitre 42, au verset 11, la kesita, en fait, c'est un morceau d'argent d'une valeur inconnue, peut-être le prix d'un agneau, on n'en sait rien, mais servant de monnaie et dont la seule référence dans l'Ancien Testament remonte à quelle époque, je vous le demande ? À l'époque des patriarches. Vous voyez, il y a quand même plusieurs éléments de réponse qui nous mettent sur la voie de l'ère patriarcale. Job est donc un livre difficile, un livre poétique, un livre difficile à cerner. Et la troisième et la dernière raison pour laquelle c'est un livre difficile, c'est que c'est tout simplement un livre difficile à lire. Et là, je ne vous en prends vraiment rien, enfin j'espère, en vous disant que Job est un livre long, très long, 42 chapitres. Mais là, je vous invite à peut-être prendre vos livrets pour faire un petit survol de ce livre, très rapide. En fait, la structure du livre de Job se trouve en page 12 de votre livret. Et je vous propose de faire un petit survol. Job, c'est l'histoire d'un mec, comme dirait quelqu'un qu'on a connu dans les années 80. Job, c'est l'histoire d'un mec qui souffre alors qu'il n'a strictement rien fait, mais rien du tout, pour mériter ça. C'est un homme intègre et droit qui est injustement frappé par le malheur. C'est ce que nous verrons demain, mais c'est ce que racontent les deux premiers chapitres. Mais dans son malheur, Job a des amis qui viennent le consoler. Si vous avez assisté à la soirée d'hier soir, vous connaissez le nom de ses amis par cœur, Eliphaz, Bildad et Tsophar, dans l'ordre de leur apparition, non pas à l'écran, mais dans le livre de Job. Des amis avec lesquels vous avez peut-être fait connaissance, à partir du verset 11 du chapitre 2. Le problème, c'est que Job est absolument inconsolable. C'est un homme broyé par la douleur, qui ne comprend pas du tout ce qui lui arrive, qui se lamente et qui remet en question la façon dont Dieu gère le monde. C'est ce qui se passe au chapitre 3. Et vous voyez, ces lamentations et cette remise en question va donner lieu à un débat passionné entre Job et ses amis. Un débat composé de 3 cycles de discours, incluant, comme il est indiqué, l'intervention d'un ami et la réponse de Job. Donc des chapitres 4 à 27 ou à 31, selon les découpages, on a 3 cycles de discours, d'accord ? Le premier cycle de discours, on a l'intervention d'un ami, la réponse de Job. Intervention d'un autre ami, réponse de Job. Intervention d'un dernier ami, réponse de Job. Deuxième cycle de discours, on prend les mêmes et on recommence. Troisième cycle de discours, on prend pas tout à fait les mêmes et on recommence pas tout à fait. C'est vraiment différent dans la mesure où ce troisième cycle de discours à partir du chapitre 22 est interrompu par le chapitre 28. Un poème sur la sagesse mystérieux dont nous essaierons de percer le mystère cette semaine. Job est ensuite l'auteur d'une dernière réponse des chapitres 29 à 31 dans lesquels il demande à Dieu de lui répondre. Mais Dieu ne lui répond pas. Pas pour l'instant, en tout cas. Et en attendant, c'est un personnage mystérieux qui prend la parole. Éliou. Un personnage surprenant, énigmatique, qui prend la parole et qui prépare le terrain pour la réponse de Dieu. La réponse de Dieu. Des chapitres 38 à 42, suivi par l'épilogue du livre. Donc vous voyez, Job est un livre difficile à lire, non seulement parce que c'est un livre long, mais c'est aussi parce que c'est un livre qui pose des questions très, très, très difficile. En fait, au-delà du problème de la souffrance, Job pose le problème de la souffrance innocente, injuste, incohérente, sans raison apparente. Dans la vie, il y a des souffrances qui s'expliquent. Je ne sais pas si vous avez vu à la télé, je l'ai vu l'année dernière, ce documentaire intitulé « Super Size Me ». Est-ce que quelqu'un a vu ce documentaire ? En français, on pourrait peut-être le traduire par « Grossissez-moi ». C'est un documentaire très intéressant d'un journaliste qui enquête sur les effets néfastes des fast-foods et qui décide de se nourrir exclusivement de McDo pendant un mois. Le résultat est catastrophique. Il prend 11 kilos. C'est autant que moi après un an de mariage. Il endommage son foie. Et il augmente considérablement son taux de cholestérol. Vous voyez, dans la vie, il y a vraiment des souffrances qui s'expliquent. Si vous mangez trop McDo tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, pendant un an, il y aura des conséquences, mais inévitables, d'accord ? Dans la vie, il y a vraiment des souffrances qui peuvent s'expliquer. Mais dans la vie, il y a aussi des souffrances qui ne s'expliquent pas. Des souffrances qui ne s'expliquent pas. Albert Camus, dans « L'homme révolté », dit ceci, écoutez. Il avait compris beaucoup de choses, Camus. Ce n'est pas la souffrance de l'enfant qui est révoltante en elle-même, mais le fait que cette souffrance ne soit pas justifiée. Le fait que cette souffrance ne soit pas justifiée, la souffrance injuste. La souffrance use l'espoir et la foi. Fin de citation. Job est un livre difficile. Difficile à lire, parce qu'il pose vraiment des questions difficiles. Des questions qui révèlent tout haut ce que vous pensez tout bas. Qui révèlent tout haut ce que je pense tout bas. Des questions qui révèlent tout haut ce que nous pensons tout bas dans notre fort intérieur, dans le secret de nos cœurs, parfois même dans le flot de nos larmes. C'est un livre qui sait ce que vous pensez. C'est un livre qui sait ce que je pense. C'est un livre qui lit dans nos pensées. Un livre difficile à lire parce qu'il pose des questions difficiles. Est-ce qu'on pourrait lire ensemble un passage que nous n'aurons pas le temps de lire cette semaine, chapitre 21 de Job, un exemple. Job, chapitre 21. Ce chapitre 21 est la réponse de Job. Vous vous rappelez, nous situons entre les chapitres 4 à 27, trois cycles de discours. Nous nous situons à la fin du deuxième cycle de discours. Il s'agit de la réponse de Job à Tsophar dans le deuxième cycle de discours. Et voilà ce que dit Job. Écoutez bien. Alors qu'il souffre terriblement. À partir du verset 7. Job 21. À partir du verset 7. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et même développer leur force? Ils voient leurs descendants s'affermir à leur côté, leurs rejetons prospérer sous leurs yeux, dans leur maison règne la paix sans aucune peur, le bâton de Dieu ne vient pas les frapper, leurs taureaux transmettent leurs semences à coup sûr. Leurs vaches mettent bas et n'avortent pas, ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et leurs jeunes garçons peuvent gambader librement. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, ils se réjouissent au son des instruments à vent, ils finissent leur jour dans le bonheur. Verset 13. Et ils descendent en un instant au séjour des morts. Pourtant, ils disaient à Dieu, éloigne-toi de nous, nous ne désirons pas connaître tes voies. Qu'est donc le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Verset 16. Certes, leur bonheur ne dépend pas d'eux-mêmes. Ainsi, les projets des méchants sont bien loin de moi. Cependant, arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère s'abatte sur eux, que Dieu leur distribue leur part en fonction de sa colère? Qu'ils soient pareils à la paille emportée par le vent, à la balle enlevée par le tourbillon. Est-ce au fils du méchant que Dieu réserve le malheur? C'est le méchant lui-même que Dieu devrait punir pour qu'il le reconnaisse. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait être touché par la fureur du Tout-Puissant. Autrement dit, regardons la réalité en face. Regardons la réalité en face. La vie sourit parfois à ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu. Et vous pensez peut-être à certaines personnes de votre entourage. Alors que le malheur frappe certaines personnes qui n'ont apparemment strictement rien fait pour mériter ça. Pourquoi en est-il ainsi? On s'est tous posé ces questions, n'est-ce pas? À un moment ou l'autre de nos vies. Autrement dit, comment comprendre la souffrance injuste dans un monde que l'on croit gouverner, diriger, gérer par un Dieu juste? Dieu fait-il bien son travail? Pardonnez-moi ce jeu de mots, mais puisque nous sommes dans le livre de Job, et c'est ce que nous verrons demain, Dieu fait-il bien son job? Vous avez bien révisé. Son travail, son taf, son boulot. Est-ce qu'il gère bien vos vies? Est-ce qu'il gère bien le monde dans lequel nous vivons? En fait, au-delà du problème de la souffrance, au-delà même du problème de la souffrance injuste, voilà peut-être les questions fondamentales que pose le livre de Job et que l'on pourrait résumer ainsi. Dieu est-il Dieu? Après tout, Dieu est-il Dieu? Job est donc un livre difficile qui pose des questions difficiles auxquelles il n'y a pas de réponse toute faite, des questions trop profondes, trop sérieuses, trop graves pour être traitées à la légère en 5 minutes sur une carte postale. Et si vous avez souffert dans votre vie, vous pouvez peut-être en témoigner. Je vous encourage vraiment à considérer le livre de Job, non pas comme une carte postale, mais comme un voyage. Un long voyage, un voyage qui prend du temps, mais un voyage utile. Un voyage qui vaut la peine d'être fait. Ça nous amène à notre deuxième et à notre dernier point. Job est un livre difficile, c'est vrai, mais c'est un livre utile. J'ai eu le privilège dans ma vie d'aller 4 fois en Australie. Pas mal, non ? Une fois pour revoir la femme que j'ai épousée, c'était il y a quelques années. Je l'ai rencontrée au GBU d'ailleurs, comme quoi le GBU ça sert aussi à ça. Une fois pour faire un stage avec l'un des GBU à Melbourne, il y en a plusieurs. Une fois pour me marier, c'était en octobre 2008. Et une fois en vacances, c'était les semaines dernières. Et si vous êtes allé en Australie, vous savez comme moi qu'un voyage en Australie, c'est long. C'est très long. 20 heures d'avion minimum. On a eu 2 escales, Dubaï et Kuala Lumpur en Malaisie cette fois. Parfois 3 escales si vous passez par Sydney. Un décalage horaire très important. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Ça vaut le coup. C'est long, mais c'est bon. Ça vaut vraiment le coup. Des paysages somptueux. des plages magnifiques. Il y a une plage en Australie qui s'appelle Squeaky Beach. Vous marchez sur le sable et ça fait du bruit merveilleux. Vous pouvez nettoyer vos bijoux avec. Ça a des effets absolument extraordinaires. Des steaks de kangourou. Une viande très saine, très peu grasse, très bonne pour la santé. Du Vegemite. Pas du Marmite. Du Vegemite. Des hamburgers à la betterave. Un voyage en Australie, c'est long, mais c'est bon. Francis Andersen, qui est un commentateur australien, qui a écrit un très bon commentaire sur le livre de Job dans la série Tyndale, écrit ceci. Écoutez bien, en introduction de son commentaire. Le livre de Job est, je cite, « l'une des offrandes suprêmes que l'esprit humain puisse offrir au Dieu vivant et l'un des meilleurs dons que Dieu puisse faire aux hommes. La tâche qui consiste à le comprendre est autant satisfaisante qu'éprouvante. » Fin de citation. Autrement dit, Job est un don de Dieu dans le cadre de sa parole. Un don qui peut nous être utile personnellement, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Que tout roule ou que tout s'écroule pour vous en ce moment. Que tout aille bien ou que tout aille mal. Je connais beaucoup de personnes, et vous en connaissez peut-être, comme Elie Wiesel, vous vous rappelez, dont la foi a été consumée, dont la compréhension de Dieu et du monde a été complètement détruite, assassinée, pour reprendre son verbe, par la souffrance injuste. Je ne suis pas en train de dire que le livre de Job peut nous immuniser contre la souffrance, mais c'est un livre utile qui peut nous préserver, nous protéger de cette destruction catastrophique. Alors cette semaine, j'aimerais vous encourager à faire deux choses que vous n'avez peut-être jamais faites dans votre vie. La première, lire le livre de Job en entier, à raison peut-être de 7 chapitres par jour. Je sais que certains d'entre vous l'ont lu, mais si vous n'avez pas encore fait, est-ce que je peut me permettre de vous encourager à profiter de cette semaine pour faire quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait, à lire le livre de Job en entier, du début à la fin. Je sais que c'est long, mais c'est bon. 42 chapitres, à raison de 7 par jour. Et la deuxième chose que vous encourage vraiment à faire, c'est à profiter de cette semaine pour demander à Dieu de vous préparer pour l'avenir. Pour lui demander de vous aider à réagir d'une manière qui le glorifie. Si un jour, dans sa souveraineté, nous sommes confrontés à la souffrance, nos propres souffrances, mais aussi celles des autres, et à persévérer dans la confiance que nous avons placée en lui. Regardez ce que dit Jacques, l'épître de Jacques, au verset 11 du chapitre 5. Nous disons « heureux ceux qui persévèrent ». Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez lu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Job est donc un livre utile qui peut nous aider personnellement. Mais c'est aussi un livre, et c'est sur cette dernière idée que je m'arrête, c'est un livre qui peut être utile aux autres et en particulier à ceux qui se posent des questions sur la souffrance injuste. Job, nous l'avons dit, pose des questions que tout le monde se pose, que vous vous êtes certainement posé un jour ou l'autre, que je me suis posé beaucoup de fois dans ma vie. Des questions que tout le monde se pose, que nous soyons chrétiens ou non chrétiens. Et je crois que c'est un livre qui peut attirer l'attention de nos amis, de ceux qui se posent ces questions sur Jésus, dont les souffrances, on va le voir demain, sont préfigurées par celle de Job. Jésus est en effet le juste, l'innocent par excellence, qui a souffert pour le pardon de nos péchés, qui n'est pas indifférent à nos souffrances, mais qui peut compatir et nous amener à Dieu. N'est-ce pas là, je vous pose cette question, n'est-ce pas là une puissante invitation à trouver le réconfort et le salut dont nous avons besoin en lui? Je propose de prier pour terminer. Notre Dieu, notre Père, merci pour le don de ta parole. Elle contient parfois des livres difficiles à lire et à comprendre. Ce n'est pas un livre comme les autres, c'est ta parole, tes pensées ne sont pas nos pensées. Mais merci parce que le livre de Job, malgré ses difficultés, est un livre utile. Nous prions, notre Père, que tu nous aides cette semaine à prendre le temps de lire ce livre. Sers-toi de ce livre pour nous équiper, pour nous préserver de la destruction que peut parfois provoquer la souffrance injuste dans la vie. Pour nous aider à t'honorer, à te glorifier en persévérant dans la confiance que nous avons placée en toi en toutes circonstances. Sers-toi de ce livre, Père, pour attirer nos regards sur Jésus qui a souffert, qui peut compatir à nos souffrances et qui peut nous donner le réconfort dont nous avons besoin. C'est en son nom précieux que nous prions. Amen.